bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute du débat Patara, l'émission politique de Radio Ndeke Luka. Nous la consacrons aujourd'hui à l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine le 13 août. En effet, colonie française jadis connue sous le nom de Lubangui-Chari, la République centrafricaine proclamée le 1er décembre 1958 accède à l'indépendance le 13 août 1960. Ancien membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française AIF, la RCA est dirigée en ce moment-là par David Dacou du mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire MESAN. Successeur du président fondateur Barthélemy Bouganda, décédé en 1959, soit une année avant l'indépendance de son pays, David Dacou cumule les fonctions de chef du gouvernement et de chef de l'État. Petit pays de plus d'un million d'habitants, la République centrafricaine accède à l'indépendance un mois après la conclusion d'entente négociée avec le gouvernement français le 12 juillet 1960. Elle sera connue par l'Organisation des Nations Unies ONU le 20 septembre de la même année. Selon le dictionnaire Le Robert, indépendance est l'état d'une personne indépendante, c'est être libre, autonome, un peu plus vaste que la France avec une superficie de 623 000 km² au cœur du continent africain. La République centrafricaine n'a jamais connu une stabilité comme les autres pays africains. Son histoire est jalonnée de coups d'État. Le président fondateur Barthélemy Bouganda ayant trouvé la mort dans un accident d'avion, c'est son neveu David Dacou qui devint le premier président de la République. Mais il fut renversé le 1er janvier 1966 par son cousin Jean-Bédel Bokassa, un ancien capitaine de l'armée française. Le nouveau président va s'octroyer le titre d'empereur 10 ans plus tard. Discrédité par cette turpitude supposée, l'empereur Jean-Bédel Bokassa fut déposé le 21 septembre 1979 et David Dacou réinstallé au pouvoir au grand soulagement de la France. En septembre 1981, David Dacou perd à nouveau le pouvoir par un coup d'État. André Kolingba accède au pouvoir et le gère pendant 12 ans. En 1993, c'est-à-dire 2 ans après l'introduction du multipartisme, Ange Félix Patassé est élu président au terme des premières élections pluralistes dans le pays. Le président Patassé sera réélu en 1999, mais en 2001, une tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la capitale. Le 15 mars 2003, un autre général, François Bozizé, renverse finalement Patassé et s'empare du pouvoir. En fin 2012, commence la deuxième guerre civile. Les rebelles dans leur coalition Séléka accusent Bozizé de ne pas respecter les accords. Ce bouleversement se soldera par le renversement de François Bozizé le 24 mars 2013, marquant le début de la crise actuelle. Michel Ndotodianam Drogo sera investi chef de l'État de transition par ses pairs, mais sous pression des milices anti-Balaka et de la population, il sera donc à son tour démis à N'Djamena Oudiad le 10 janvier 2014. Alexandre Ferdinand Guindé, président du Conseil national de transition à l'époque, a assuré l'intérim durant 2 semaines avant de passer la main à Catherine Samapanza, élue le 20 janvier 2014, présidente de transition par les conseillers nationaux de transition. 30 mars 2016, Faustin Archange Touadéra, démocratiquement élu à l'issue des élections groupées de 2015-2016, prête serment et devient président de la République. Il va donc prendre la gestion d'un pays plongé dans le chaos. Un pays qui dépend majoritairement de l'aide internationale. Un pays où plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire. De nombreuses questions restent posées. Comment expliquer l'indépendance de la République centrafricaine? L'année 2019-2020 peut-elle être une année d'émancipation de Centrafrique? Et que reste-t-il aujourd'hui des rêves et des espoirs des centrafricains de 1960? L'indépendance de la RCA est-elle pour autant parfaitement achevée? Y a-t-il aujourd'hui des formes de domination post- ou néocolonialiste? Dans quelle mesure les difficultés actuelles de Centrafrique sont-elles imputables à la colonisation? À l'heure de commémoration, quel bilan peut-on dresser des 59 années d'indépendance? Pour en débattre, nous recevons autour de ce plateau M. Aboubakar Moukadas Nour, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, représentant du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
M. Bertin Beya, secrétaire général de l'ancien parti au pouvoir Kwanakwa, du président François Bozizé. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Et Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Au centre du débat, je suis Armand Nguindi et à la technique, c'est le service de Guy Rémi Amenendi. Patara, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, ouvrons le bal avec vous, monsieur le ministre Moukadas Nour. 59 ans aujourd'hui d'indépendance de la République centrafricaine. Comment voyez-vous l'état actuel du pays ?
Merci pour cette question que vous avez d'ailleurs reprise dans votre introduction de tout à l'heure, en posant la question principale. Il s'agit d'expliquer l'indépendance de la RCA. Je trouve que c'est vraiment une question centrale. Mais en même temps, dans votre introduction, vous avez donné une définition étymologique du concept de l'indépendance. Et selon vous, il s'agit de l'État, d'une personne indépendante. Et vous avez renchéri pour dire que c'est en fait être libre et autonome. Mais nous verrons que dans la réalité, ce n'est pas cela. Il y a un pays, une entité a des liens historiques avec certaines puissances. Et c'est ce que nous allons examiner, je pense, concernant la problématique de l'indépendance. Parce qu'il y a des pays qui ont souffert pour obtenir leur indépendance. Je pense par exemple aux pays qui ont connu ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Et ils ont dû batailler dur. Et il y a des pays qui ont connu les colonies, ce qu'on appelle les colonies d'exploitation. C'est le cas de notre pays, à travers l'exploitation des matières premières. On pense tout de suite aux travaux forcés. On pense tout de suite à l'implantation des sociétés concessionnaires qui étaient implantées dans notre pays pendant l'époque coloniale et qui ont exploité à outrance les ressources de ces pays. Et toujours ma réaction concernant votre introduction. Moi, je pense qu'il faut centraliser le débat. Vous-même, vous avez dit 59 ans aujourd'hui.
59 ans, oui,
d'indépendance. Il faut même encore, on peut prendre même 2 ans, parce que la proclamation avait eu lieu le décembre 58.
58, oui.
Alors, faites le compte. Vous allez voir combien de générations sont passées, de 60 jusqu'à nos jours. Généralement, selon les démographes, une génération est constituée d'une tranche de population dont l'âge varie entre 0 et 22 ans, peut-être même plus. Mais il y a combien de générations qui sont passées? Si mes comptes sont bons, ça fait 3 générations qui sont passées.
Pour quel résultat?
Effectivement, c'est la question que j'allais... C'est pourquoi je voulais qu'on réoriente un peu cette question-là. Au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce que ces différentes générations qui se sont succédées dans la gestion du pouvoir ont fait pour le pays. Je ne pose pas la question de ce que le pays a fait pour eux. Le pays a beaucoup fait. Le pays a offert des bourses, le pays a offert des salaires et le pays continue à fournir des efforts pour prendre en charge justement les acteurs politiques, institutionnels et même de la société civile. Qu'est-ce que ces générations-là ont fait pour le pays?
Voilà, on va en revenir avec vous, M. Bertin Béa, la même question tout à l'heure. Quelle lecture faites-vous de l'Union africaine 59 ans aujourd'hui d'indépendance de ce pays?
Je vous remercie, je suis très heureux de participer à cette émission. Vous avez fait un très bon résumé de la situation, mais je voulais simplement, pour la compréhension sur le plan historique des auditeurs, relever que David Akko perd le pouvoir par un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État en 1981. Il y a eu remise de pouvoir à l'armée, au chef d'État-major de l'armée. Il n'y a pas eu vraiment de coup d'État. De ma petite connaissance, David Akko, qui était donc au palais, a fait venir le chef d'État-major. Il se trouvait que c'était André Kolingba et il a dit « Vous prenez donc le pouvoir parce qu'il y avait des troubles extrêmement graves. » C'était même pratiquement le début des affrontements, guerre civile, on peut le dire peut-être ainsi, dans notre pays. Donc il n'y a pas eu de coup d'État en fait en 81.
Maintenant, Kolingba n'a pas voulu remettre par la suite ce pouvoir à David Akko.
Bon, il y avait une entente, et bien les deux ne sont pas entendus, et bien bon, s'il s'est passé ce que nous connaissons. Mais pour revenir à la question d'aujourd'hui, vous avez bien fait de parler donc de la question de l'AEF. Je crois que l'AEF avait rempli à cette époque-là une fonction stratégique importante pour la France qui était sous occupation allemande, sous occupation nazie. D'ailleurs, De Gaulle, qui n'avait pas de légitimité, n'avait pas de territoire, avait donc fait l'AEF, n'est-ce pas, un territoire, avait une légitimité et des administrés. C'est ce qui a fait donc la France libre, non pas un mouvement, mais un gouvernement. Donc à partir de l'AEF, puisque De Gaulle n'avait pas de territoire, ni de gouvernement, donc c'est basé sur l'AEF, n'est-ce pas, pour constituer son gouvernement, la France libre. Deuxièmement, je rebondis sur ce qu'a dit le ministre Moukadas. Effectivement, l'effort de guerre a été fourni par les colonies de l'AEF, en particulier pour la fourniture en caoutchouc, en huile, notamment de palme, et en étain. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un effort important de la part des colonies pour appuyer, n'est-ce pas, la France dans cette période difficile qu'elle a connue face à l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, je crois qu'il est important de savoir que, ayant accédé à l'indépendance, la souveraineté internationale, que tout étudiant débutant en droit, c'est qu'il y a trois éléments essentiels. Un territoire, nous l'avons aujourd'hui, 623 000 km², c'est ce que vous avez dit, et c'est exact. Deuxièmement, une population, il y a une population. Et troisièmement, un gouvernement. Et je pense que la question de l'indépendance est importante aujourd'hui. Je suis heureux d'en parler aujourd'hui parce que, à partir de là, nous devons savoir où est-ce que nous devons aller. Et autour de ça, il doit y avoir une espèce de consensus. Et ce consensus ne peut se définir qu'à travers la définition de règles, la définition d'orientation politique, institutionnelle, économique, sociale et autres, dans un cadre qu'on peut appeler un dialogue, un débat. Évidemment, on me dira toujours, mais assez de débats, mais pourquoi pas, parce que les problèmes évoluent de manière conjoncturelle. Il y a comme une espèce de cycle malheureux, le cycle vicieux dans notre pays, sur le plan décennal. C'est comme si tous les 10 ans à peu près, il se produit des événements
effectivement,
dans notre pays, des événements malheureux.
C'est ce qu'on a préconisé dans le débat, on va en arriver à cette question
tout à l'heure. Merci beaucoup.
Voilà. Qu'en dites-vous, monsieur Joseph Bindoumié, par rapport à 59 ans aujourd'hui que votre pays totalise, par rapport à son indépendance?
Je voudrais signaler sur votre antenne qu'une fête d'indépendance est une cérémonie heureuse. C'est-à-dire que des peuples qui ont été dominés, un jour acquièrent leur liberté, leur capacité d'action, c'est-à-dire leur véritable pouvoir. Et donc, quand ils se réunissent, comme nous allons avoir le 13 août prochain, c'est donc un élément heureux qui devait se faire sur tout le territoire national, dans la liesse populaire. Et donc, j'adresse mes souhaits, mes meilleurs vœux d'anniversaire
à tous les Centrafricains.
Mais maintenant, nous avons reçu l'indépendance, le 13 août 1960. Qu'est-ce que nous avons eu? Comme m'a dit le secrétaire général du KNK, nous avons eu un territoire, nous avons eu une population, vous avez dit à peine 1 million, nous étions 1 200 000 habitants à cette époque-là. Vous avez donc un territoire, une population et un pouvoir d'État. Qu'est-ce que le pouvoir d'État nous a donné? On nous a donné un drapeau national, 5 couleurs, on nous a donné notre hymne national et puis on nous a donné notre devise nationale. En ce qui concerne notre hymne national, je voudrais souligner ici à votre antenne qu'aujourd'hui, la République centrafricaine continue de faire la faute officielle de dire que notre pays s'appelle la Centrafrique. Nous ne sommes pas la Centrafrique, nous sommes...
C'est le Centrafrique.
C'est le Centrafrique. Et notre hymne le dit bien au Centrafrique, au pays de Benzo, etc. Donc, nous avons eu cela. Mais malheureusement, comme on va le développer dans nos débats, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté que le président fondateur est mort avant que cette indépendance soit proclamée. Ça, c'est un problème parce qu'il était censé n'avoir commis aucune faute politique, administrative, avant de mourir. Donc, on l'a tué pour rien parce qu'il n'avait pas commencé à gérer la chose publique. Et puis, nous avons eu le président David Dacko qui a pris le pouvoir en 1960, mais malheureusement qui a été renversé 5 ans plus tard, vous avez dit le 1er janvier 1966, parce qu'on soupçonnait qu'il ne faisait pas ce que peut-être les anciens administrateurs faisaient ou souhaitaient voir faire. Nous avons eu Bokassa. Je me suis étonné que dans votre mot, vous ayez raccourci le règne de Bokassa. C'était Bokassa qui est passé général, qui est passé maréchal, qui est passé président à vie, qui est devenu empereur de Centrafrique avant d'être destitué. Après Bokassa, nous avons Dacko. Et la particularité de Dacko, c'est que Dacko, qui était en exil, non pas en République centrafricaine, a été mis dans un avion pour être ramené et placé au pouvoir par l'opération Barracuda, qui faisait suite au maintien de l'ordre de président Bokassa pour ramener la paix en République centrafricaine. Et 5 mois plus tard, on a plutôt ramené Dacko dans un avion pour lui confier le pouvoir. Et la preuve, c'est que quand on a organisé des élections et qu'il a forcé son élection, la population n'a pas accepté.
Ça fait quelques secondes.
Il a dû remettre le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où vous avez cité Kolingba, vous avez cité Patassé, vous avez cité Ndjotodia, vous avez cité Nguende 2 semaines et Madame Catherine Samba-Panza. Et puis, enfin, aujourd'hui, nous avons le président Faustin Archange Touadéra qui a commencé l'exercice du pouvoir le 30 mars 2016 et qui poursuit aujourd'hui. Maintenant, nous allons tout à l'heure dans les débats voir qu'est-ce que nous avons récolté de notre indépendance. Comme vous avez bien posé la question, est-ce que après cette indépendance-là, nous pouvons penser que la République centrafricaine, sa situation va s'améliorer? Donc c'est au cours du débat.
D'accord, évidemment, nous allons donc évoquer la question sécuritaire, messieurs, hein, la même question pour tout le monde. Depuis l'indépendance en 1960, le pays n'a fait que connaître des conflits. Quels sont réellement les vrais problèmes de la République centrafricaine, monsieur Béa?
Alors, c'est une question tellement vaste. C'est vrai qu'il y a des raisons endogènes, mais il y a aussi des raisons exogènes. Les raisons exogènes tiennent beaucoup plus à la présence, n'ayons pas peur des mots, de la puissance tutélaire, la puissance colonisatrice. Je crois que, quoi qu'on dise que la France-Afrique est terminée, la France-Afrique est toujours là. Donc, il y a toujours une présence française extrêmement importante. Mais cela dit aussi, notre pays se doit d'ouvrir le partenariat avec certains autres pays, c'est ce qui se fait également. Raison endogène, il y a aussi une part de responsabilité de nos dirigeants. C'est important parce qu'on ne peut pas comprendre que dans ce pays-là, qui a pu avoir son indépendance, qu'il y ait à chaque fois, tous les 10 ans à peu près, des crises à répétition. Donc, il y a des problèmes effectivement au plan intérieur, sur le plan endogène, des problèmes de gouvernance, n'est-ce pas, qui débouchent à chaque fois sur les crises que nous connaissons, surtout les élections. Les élections dans notre pays sont souvent la cause des crises majeures. Prenons, comme a dit le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, M. Bindoumi, déjà à l'indépendance, la première crise avait commencé lorsque David Dacko est élu. Abel Goumba, qui se croyait être celui qui allait succéder à Barthélemy Bouganda, n'a pas accepté le résultat des élections. Il y avait déjà les premiers germes, n'est-ce pas, de la contestation du régime de David Dacko, ce qui avait conduit Abel Goumba à l'exil. Et puis après, c'était Bokassa qui était arrivé aux affaires. Et 10 ans plus tard, à cause d'une question de gouvernance aussi, parce que comme l'a dit M. Bindoumi, général, maréchal, président à vie, empereur, on a vu que c'était quand même trop. Et donc, la République a été rétablie, David Dacko est arrivé, il y a eu des élections libres et démocratiques, il faut aussi dire, en faveur de David Dacko, qu'il était le président, qui a institué un régime multipartite en Centrafrique. Il y a eu des premières élections véritablement démocratiques en Centrafrique. Eh bien, on participe à cette élection, des candidats, dont Ange-Philippe Patassé, qui a contesté le résultat des élections. Cela a conduit, n'est-ce pas, à des manifestations populaires, à la crise qu'on avait connue, et donc le président Kolingba est arrivé au pouvoir.
Vous avez encore une minute.
Merci beaucoup. Alors, donc, ensuite, c'était Patassé, élu président. Deuxième mandat, il fait donc un passage en force. Les forces vives contestent ce résultat. Eh bien, la rébellion de Bozizé arrive et prend le pouvoir. Bozizé, à son tour, qui gère le pouvoir après une transition, un mandat, deuxième mandat, il y a eu des élections, résultats également contestés. Eh bien, avec le phare, le front d'annulation des élections et de reprise des élections, eh bien, on arrive donc à l'arrivée de la CELECA. Donc, il y a donc comme les élections ont constitué le terreau des changements politiques dans notre pays. C'est pour cette raison que nous pensons que les futures élections de 2020, nous devons créer les conditions en amont pour éviter que le pays retombe dans ce cycle.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Moukadas Nour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, chaque 10 ans, retombe dans la même situation? Crise, coup d'État, crise, coup d'État.
Il faut faire un retour à l'histoire. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pays qui ont connu des colonisations, de peuplement, et il y en a qui ont connu les colonies d'exploitation. Et c'est le cas de notre pays. Et vous voyez que parmi les causes de cette instabilité-là, de la question sécuritaire que nous connaissons depuis des décennies et des décennies, je pense que c'est lié au mode d'accession à l'indépendance de notre pays. Il y a des pays qui ont livré une guerre avec la puissance coloniale. Je prends le cas de l'Algérie, le cas de l'Afrique du Sud et, à une moindre mesure, le cas de la RDC, conquérir leur indépendance. Mais il y a des pays qui ont connu l'indépendance de façon pacifique, plus ou moins. Parce qu'il n'y a pas une indépendance, ne se donne pas, ça c'est clair. Hein, selon les pratiques politiques que nous avons étudiées, que nous avons connues. Il y a toujours un effort à faire pour arracher son indépendance. Donc il faut tenir compte de ces facteurs-là, facteurs qui est endogène, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais l'impact justement de ce mode d'accession à l'indépendance est extrêmement important parce que ça va déterminer la suite des politiques que le pays va orienté. Nous avons vu des pays où il y a eu l'émergence des leaders qui ont eu l'inspiration et qui ont pu canaliser les forces de la population pour arriver à une indépendance plus ou moins totale. Mais par contre, il y a des échanges ou encore, je dirais même, un lobby de la classe politique, ceux-là qui ont accédé de façon pacifique.
Vous avez encore une minute.
De façon pacifique à l'indépendance. Ça a fait l'objet des tractations entre les classes politiques et les puissances coloniales. Et justement, ces tractations-là, ces questions d'intérêt font qu'aujourd'hui, il y a problème dans la gestion du pouvoir. Il y a même certains hommes politiques qui font le jeu des puissances coloniales. Ça, il faut le dire aussi.
Et à l'heure actuelle aussi, hein. C'est ça?
Ça, c'est à vous.
D'accord, Monsieur Joseph Bindoumi, hein, comment expliquez-vous cela
sur la même question? Non, je voudrais dire que mes prédécesseurs ont eu raison. Effectivement, nous avons une indépendance douce. Mais vous savez que l'indépendance douce ne nous a pas donné la bonne voie. Ça laissait à l'ancien colonisateur le choix de continuer de regarder sur les affaires de la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons eu des occasions d'avoir notre indépendance pour nous libérer. Mais en tendant la main doucement, nous avons vu que les choses continuent de s'aggraver. On tend la main douce, mais après on se rend compte que les conséquences de la main tendue sont plus difficiles à gérer. Mais je veux vous dire une chose. Lorsque nous avons eu l'indépendance, suivez mon regard. Le président Boganda a commis quelle faute pour qu'il soit tué? Il n'a commis aucune faute. Mais lorsque David Dacko a été renversé en 66, est-ce que c'est le peuple qui s'est soulevé pour demander le départ de David Dacko? Ce n'est pas le peuple qui s'est soulevé pour demander le départ de David Dacko. C'était la puissance coloniale qui pensait que David Dacko ne faisait plus le jeu de ses intérêts, qui a décidé de le renverser pour mettre quelqu'un qui était très proche de la France, en tant qu'ancien soldat français, pour qu'il vienne diriger les affaires de la République. Et suivez encore mon regard. Lorsque cet ancien militaire français est devenu colonel, est devenu général, est devenu général d'armée, est devenu maréchal, est devenu président à vie, est devenu empereur de Centrafrique.
C'est Jean-Bédel Boukassa.
La puissance coloniale, jamais rien dit. On aurait pu dire, écoutez, nous vous avons mis là pour suivre nos intérêts, mais comme vous commencez à aller trop en profondeur, nous ne pouvons plus vous tolérer, mais on a laissé faire. Et c'est pratiquement au dernier moment qu'on a pris un autre qui était au pouvoir pour le ramener. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour la République centrafricaine. C'est l'une des rares fois dans le monde qu'on prend un président à l'extérieur avec une puissance militaire pour venir imposer dans un pouvoir souverain et indépendant. Ça, c'est la première fois dans notre pays.
Et à visage découvert. Hein.
À visage découvert, puisque l'opération s'appelait Barracuda et puisque la personne s'est installée et puis qu'on l'a installée au pouvoir. C'était un soulèvement.
Mais tu jurais que par la complicité des nationaux, des centrafricains.
Je pense que vous n'avez pas envie de me laisser suivre mon développement, mais
puisque vous avez encore une autre question en cours.
Oui, très bien. Alors donc, vous m'avez parlé de l'article 30 de la Constitution. Sans me laisser finir mon raisonnement en ce qui concerne les perturbations que notre pays connaît jusqu'à aujourd'hui, sans me laisser dire qu'aujourd'hui, les violences que nous connaissons, notre puissance titulaire qui est avec nous, a laissé faire. Lorsque nous
vous
avons
parlez de la France.
Je ne cite personne, mais je dis qu'il y a des puissances avec qui nous avons des accords qui auraient pu, lorsqu'ils se sont rendus compte que la République centrafricaine est en train d'aller sens dessous, auraient pu dire « attention, on s'arrête là ». Et puis, mais qui n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui et qui nous ont amenés pratiquement dans le vide. Alors, en ce qui concerne la responsabilité des fils du pays dans les perturbations que nous avons, mais vous comprenez que nous sommes un pays pauvre. Beaucoup de personnes dans notre pays cherchent non seulement les moyens, les honneurs, le pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on veut y rester. Je crois que la démonstration a été faite par Bertin Béat qui a dit tout à l'heure que quand Kolingba est venu au pouvoir, il venait au pouvoir au nom de l'armée pour redresser la situation et se retirer. Mais ça ne l'a pas empêché de faire 12 ans de pouvoir. Et donc, il y a effectivement des fils du pays qui n'ont pas agi dans l'intérêt...
Une minute.
Dans l'intérêt de l'indépendance de la République centrafricaine.
Voilà, M. Bertin Béat, vous avez compris que depuis l'indépendance de la République centrafricaine, tous les coups d'État ont bénéficié de l'appui direct ou indirect de l'armée ou bien des forces de défense dans ce pays. À l'exemple même de François Bozizé, qu'en dites-vous?
Bon, est-ce que l'arrivée de Bozizé au pouvoir était avec la complicité de l'armée? Je ne peux pas le dire. Bozizé était chef d'état-major de l'armée. Il y avait comme un conflit entre lui et le président de l'époque, Ange-Félix Patassé. On devait l'appréhender. Il a pris donc la fuite. Il s'est retiré dans un premier temps au Tchad, puis en France. Et de là-bas, il est revenu ici prendre le pouvoir. Bon, l'armée n'a pas réagi à ce moment-là comme il se devait en tant que force de défense, en tant que force, n'est-ce pas, qui devait protéger, assurer la protection des biens et des personnes. Ça, on peut le mentionner. C'est aussi ce qui s'est passé quand Bozizé devait donc, sous la pression pendant l'arrivée de la Séléka, quitter le pouvoir. Là aussi, l'armée n'a pas levé le petit doigt et resté avec les armes au pied, où il y en a qui ont pris la fuite. Donc, c'est une situation que nous devons nous employer à corriger et à impulser de nouvelles directions, de nouvelles orientations à notre armée, qu'elle soit une armée véritablement républicaine. Évidemment, ce qu'a dit le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme est parfaitement juste. Lorsque la puissance tutélaire s'est rendue compte qu'il y avait donc, surtout pendant l'arrivée de la Séléka, cette Séléka qui agissait à visage découvert à travers les conquêtes de villes, de villages, de localités, en détruisant systématiquement les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, les écoles, les hôpitaux, en tuant, en pillant, je crois que cette puissance colonisatrice avec qui nous avons des accords, notamment de défense, aurait pu réagir. Et on connaît la réponse à l'époque de François Hollande. Mon devoir n'est pas de protéger un régime, n'est-ce pas, en perdition, mais plutôt de sauvegarder les intérêts de la France. Il s'agit de quels intérêts ? Les intérêts véritablement stratégiques. Les intérêts sur les ressources minières de ce pays. Eh bien, puisqu'au début de cette émission, nous avons commencé, moi en particulier, à relever le rôle, l'apport, n'est-ce pas, de notre pays, l'ex-Oubangui, dans l'effort de guerre pour protéger la France sous occupation nazie, il y a comme un devoir de redevabilité, de reconnaissance, de gratitude de cette puissance vis-à-vis de notre pays. Et c'est ce qui devait se matérialiser à travers ces accords de défense. Il y a eu certes l'intervention, quoique tardive, de Sangaris, mais Sangaris s'est précipité aussi à plier bagage et à quitter, alors même que le pays n'était pas stabilisé. Ça, c'est une question extrêmement importante. Parce que justement, cette puissance colonisatrice avait des obligations, n'est-ce pas, pour nous assister, parce qu'on n'avait pas d'armée, on n'avait pas d'administration. Comme a dit M. Benoumé, c'est un pays pauvre, un pays qui n'a pas les ressources pour soutenir son armée, pour soutenir un effort de guerre. Et la situation aujourd'hui est dans l'état que nous connaissons, malheureusement.
M. Moukadas Nour, est-ce que la responsabilité est-elle partagée à ce niveau entre ceux qui nous ont colonisés et les fils du pays ?
Bien entendu, souvent on accuse la puissance colonisatrice de nous malmener, d'influencer nos politiques. Mais on a vu le contraire dans d'autres pays. Je prendrai l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a subi une colonie d'exploitation avec la même puissance tutélaire que nous avons connue, dont nous parlons, mais qui s'est tirée à travers l'exploitation, par exemple, de ses ressources agricoles. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire a connu un taux de croissance de 11% pendant une décennie. Ça, c'est une prouesse. Ça relève même du miracle. D'ailleurs, on avait à l'époque même parlé du miracle ivoirien. Pendant 10 ans, ils ont eu un taux de croissance avoisinant le 11%. C'est énorme. Mais pourtant, ils ont subi le même système colonial que nous. Cela me fait revenir à la question que je posais tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a eu à identifier 3 générations qui se sont succédées depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, les acteurs religieux de toutes les sociétés, toutes les catégories socio-professionnelles, qu'est-ce que ces acteurs-là ont fait pour développer ce pays-là, pour impulser une dynamique de développement dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut se poser cette question. Je prends toujours l'exemple d'un jeune centrafricain, je vais citer parce que c'est vraiment un exemple. C'est le promoteur de l'ONG Yangambiwa. On était avec le président de la République pour inaugurer le complexe qu'il a réalisé.
Oui.
Et je suis allé jusqu'à lui poser la question de savoir quel âge il a. Il m'a dit qu'il a 30 ans, très jeune. 30 ans. Or, le pays a combien depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui?
59 ans.
Ça veut dire que quand même, il faut se poser aussi des questions concernant ces générations qui se succèdent là. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que la discussion axée autour de cette question-là peut nous permettre d'avancer.
Vous voulez réagir, M. Bindoumi, mais nous changeons un peu de discipline parce que le temps nous fait défaut.
Bon, alors, moi, je voudrais rebondir. Je dis que ce que vient de dire le ministre, effectivement, l'État centrafricain l'a fait, parce que vous savez que quand David Dacko est venu au pouvoir, David Dacko a lancé une politique agricole. Il a fait appel aux Israéliens pour que les Israéliens viennent nous montrer les nouvelles techniques agricoles afin de sortir le pays. Et quand Bokassa est venu au pouvoir, Bokassa a créé l'opération Bokassa, qui consistait à ce que tous les centrafricains soit capable d'avoir une parcelle
agricole.
Donc, nous avons fait des efforts, mais ces efforts n'ont pas été encouragés. N'ont pas été encouragés. Est-ce que vous avez vu une vieille machine agricole française ici? Est-ce que vous en avez vu quelque part dans nos rues? Est-ce que vous avez une ferme française qui produit des produits agricoles, qui transforme les produits agricoles ici? Voilà.
Oui, Monsieur Bertin Béa, quelques secondes parce que...
Merci. Très rapidement, je voulais dire simplement que le miracle ivoirien dont a parlé le ministre Nour est en réalité un miracle centrafricain. Puisque David Dacko ayant lancé une politique agricole volontariste, eh bien, il y avait des ingénieurs, mais il faut relativiser, des Israéliens, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui étaient à Bukoko, notamment des ingénieurs français. On a parlé d'un grand presque savant, M. Sakas. Ils ont conçu des produits agricoles extrêmement importants et quand Bokassa arrive au pouvoir, avec la réforme agraire menée par certains Centrafricains aussi, ça a conduit donc ces ingénieurs à fermer la ferme de Bukoko et à aller en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a fait, n'est-ce pas, le miracle ivoirien.
Merci beaucoup. Je reste avec vous, M. Bertin Béa. Accuser la France d'être à l'origine des crises en République centrafricaine, n'est-ce pas occulter la responsabilité des hommes politiques centrafricains dans la faillite de la construction d'une nation prospère?
Je crois que je parlais au début.
Et la même question pour Monsieur
Binou. De raisons exogènes et de raisons endogènes. Je crois qu'il y a quand même un mélange entre les deux raisons. Mais cela dit, c'est vrai, on ne peut pas éluder la puissance tutélaire de la France ou le poids de la France dans la gestion des affaires de notre pays. Mais il y a beaucoup plus la responsabilité des dirigeants. On revient sur la question agricole. Lorsqu'on fait des choix économiques, eh bien, ce n'est pas la France qui nous le dicte, il faut le dire. C'est de la responsabilité de nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des ressources minières, le pétrole, l'uranium, le coton.
Et ça, vous rejoignez, monsieur le ministre Moukadas Nour.
Mais je le rejoins parfaitement. C'est pour cette raison qu'au début de l'émission, je disais, nous pouvons avoir une vision consensuelle sur des choix économiques, sur des politiques économiques à réaliser, notamment sur l'agriculture. Nous sommes un pays de 623 000 km² que beaucoup nous envient. Le Burkina Faso, par exemple, où il ne pleut pas, alors que chez nous, il pleut abondamment.
Quelques secondes.
Voilà. Donc, ce sont des choix que nous devons faire en toute responsabilité. Donc, en priorisant la question de l'agriculture, notamment, par rapport au pétrole qui, souvent, amène la guerre. On parle, n'est-ce pas, d'une corrélation entre la guerre et le pétrole. Donc, je crois qu'il faut revenir à la question de l'agriculture pour, n'est-ce pas, relancer l'économie.
Et c'est seulement le pétrole. Nous avons plusieurs ressources naturelles.
Nous avons le
coltan. Pourquoi c'est seulement le pétrole?
Nous avons le coltan, par exemple, que le Congo démocratique dispose aussi. On en parle de moins en moins, mais c'est une réalité. On parle, n'est-ce pas, de plus de 500 indices miniers en Centrafrique. C'est la raison pour laquelle on parle d'anomalie, n'est-ce pas, de Bangui. À cause, n'est-ce pas, des richesses minières de notre pays.
Oui, M. Bindoumi, rapidement, une minute.
Je vous prends une minute. Vous avez parlé de la faillite de nos hommes politiques, c'est vrai. Il y a eu la faillite de nos hommes politiques. Quand vous remarquez que Kolingba arrive au pouvoir, plutôt que s'engager à développer l'agriculture et développer l'économie, on s'est rendu compte qu'il a préféré faire de son armée une armée d'ethnie qu'il a voulu nommer l'administration. Que des parents à lui. Quand on se rend compte que lorsque le président Patassé est arrivé au pouvoir, il y a le parti qui a dominé l'État. Tout le monde, il fallait être leader du MLPC ou cadre du MLPC pour prétendre à des postes de responsabilité. Quand on se rend compte que Bozizé est arrivé, non seulement il a eu peur qu'il soit un jour renversé et que l'armée nationale a été purement abandonnée, que les poudrières de la nation se sont trouvées à Benzambé, à Bossambélé et ailleurs, et que le jour où il y a eu une attaque extérieure, les militaires centrafricains n'ont pas pu tenir devant l'ennemi parce que effectivement les moyens qui devraient être à leur disposition, les formations qui étaient requises, ils ne les ont pas eues. Lorsqu'on a vu Ndioto Dia arriver avec une horde de, permettez-moi le mot, de mercenaires, de barbares, lorsqu'on a vu cela, et lorsqu'on a vu qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, sous le régime du président Touadéra, nous avons des gens qui créent au nom du président Touadéra qu'ils sont des requins et puis qu'on ne semble pas les appréhender pour les détenir. Et puis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'approche du président.
Quelques secondes.
Oui, qui s'approche du président et qui ferme le robinet autour du président pour qu'il ne regarde pas sur l'étendue nationale. Tout ça, c'est des fautes des dirigeants centrafricains qui font que notre indépendance aujourd'hui est une indépendance pratiquement 59 ans, tout à fait réservée.
Monsieur le ministre Moukadas Nour, le récent rapport de OCHA précise que plus de 2 900 000 personnes ont besoin actuellement de l'aide humanitaire en Centrafrique. Est-ce que cela vous inquiète, monsieur le ministre ?
Pas du tout. À partir du moment où c'est des chiffres, vous savez, c'est des données quantitatives, hein, c'est des statistiques. On peut le corréler à d'autres phénomènes. Et on peut même, d'abord, se fier aussi aux statistiques qui sont produites par les structures nationales, par les départements, pour les confronter.
Et donc, ce chiffre ne vous dit pas beaucoup de choses.
Je sais de quoi je dis. Parce qu'on peut gonfler des chiffres pour des raisons politiques, pour des raisons de dotation, pour des raisons de captation même, je veux dire, des appuis financiers et autres. Ça aussi, c'est possible. Il ne faut pas exclure cette hypothèse.
Oui, mais sur le terrain,
moi, je pense que pour les chiffres, en tout cas, il faut tout le temps les confronter avec d'autres sources. Parce que c'est la seule source que vous avez pour le moment. Mais il y en a d'autres, moi je vous l'ai dit. Et donc, je crois que pour une analyse objective, pour prendre des positions claires, il faut tout le temps avoir ce réflexe-là de confronter les chiffres. Ce ne sont que des chiffres de toutes les formes.
Oui, ce sont des chiffres, mais sur le terrain, vous constatez également cette situation.
Malheureusement, je ne suis pas encore allé sur le terrain.
Oui, M. Bertin Béa, selon la communauté humanitaire, plus de 60% de la population dépend de l'aide humanitaire. Est-ce que vraiment on est indépendant sur le plan agricole en ce moment ?
Bon, je ne sais pas si la réponse qu'a donnée M. Moukada, il a fait en tant qu'universitaire ou en tant que membre du gouvernement. Quoi qu'il en soit, la réalité aujourd'hui est d'une évidence frappante. C'est comme, dirait quelqu'un, c'est comme le nez sur le visage. Cela ne trompe personne. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour, n'est-ce pas, constater que notre pays dépend en grande partie de l'aide humanitaire à cause de l'insécurité endémique qui frappe notre pays aujourd'hui. On dit très clairement, je suis surpris que le gouvernement ne puisse pas avouer cette réalité. L'avouer, cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, nier l'évidence. L'évidence est qu'aujourd'hui, 80% du territoire est sous contrôle des forces rebelles, ce qui fait qu'on ne produit pas. La crise alimentaire, notamment un produit que nous consommons beaucoup, le manioc, a connu un taux élevé, a doublé. On n'a pas besoin d'aller sur le marché pour le constater, mais toutes nos mamans nous disent aujourd'hui que le prix du manioc a augmenté, a doublé. Donc c'est une réalité quand on dit que le pays vit, n'est-ce pas, grâce à l'aide humanitaire, grâce à l'appui humanitaire, à l'appui international, c'est une évidence. Cela veut dire que nous devons prendre les taureaux par les cornes et nous dire qu'est-ce qu'on fait pour remédier cette situation. À l'époque, jeune garçon, quand j'allais pendant les vacances au village, dans chaque maisonnée, il y avait un grenier. Vous allez aujourd'hui dans nos villages, il n'y a plus de greniers.
Quelques secondes.
Merci beaucoup. Il n'y a plus de greniers. Ces greniers-là constituaient une espèce d'épargne alimentaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous allez dans nos villages, il n'y a plus cette épargne alimentaire, il n'y a plus de semences, n'est-ce pas, pour nos paysans. Les semences viennent de l'extérieur et c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave.
Oui, quelques secondes avec vous, M. Moukadas Nour. Vous voulez répondre avant qu'on donne la parole à M. Bindoumi ?
Absolument. Tout simplement pour dire qu'il n'est pas question de nier ces chiffres-là. J'ai dit seulement restons prudents. Il faut être très prudent avec les chiffres. C'est des données quantitatives. Il peut y avoir d'autres données. Mais il faut tout le temps le croiser.
Est-ce que le gouvernement a encore quelques chiffres à part ?
Dans les années, écoutez, un retour à l'histoire pour parler de ce problème de famine et d'insécurité alimentaire. Vous vous rappelez que dans les années 80, la balance commerciale de notre pays était équilibrée. Balance d'exportation et balance d'importation, c'était vraiment équilibré. C'est pour dire qu'il faut être vraiment prudent dans les chiffres parce que ça peut faire l'objet de manipulations politiques pour mobiliser de fonds.
Merci beaucoup. Monsieur Bindoumi, la moitié de la population centrafricaine, comme a dit OCHA selon ce rapport, dépend de l'aide humanitaire. Est-ce que cela vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas. Je crois que notre débat concernant le 59e anniversaire de la République centrafricaine devait poser ce problème. Nous devons dire, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, 59 ans après, le centrafricain mange à sa faim ? Est-ce que nous avons aujourd'hui la possibilité, et je parle en présence des membres du gouvernement, est-ce que nous avons la possibilité de dire que le centrafricain mange à sa faim, que quel que soit l'endroit du pays où il se trouve ? La réponse, c'est non. On n'a pas besoin de rapport pour ça. Est-ce que le centrafricain va à l'école comme il le souhaite ? La réponse, c'est non. Est-ce que le centrafricain se soigne comme il peut ? J'ai remarqué que vous n'avez pas cité les cinq verbes du Messane. Est-ce que le centrafricain se soigne comme il peut ? Est-ce que le centrafricain, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une localité, est-ce qu'il se sent vraiment à l'aise dans sa peau de centrafricain ? Donc, 59 ans après, ça devait nous interroger. Et c'est la raison pour laquelle nous, de la société civile, on dit, lorsque une guerre s'allonge, cette guerre qui s'allonge nous entraîne des conséquences énormes sur le plan humanitaire, sur le plan
économique, social éducatif. Et oui.
Donc, pour nous, demandons à ceux qui ont signé l'accord d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour que la République centrafricaine, 59 ans après, puisse trouver les moyens de vivre en tant que centrafricain.
Mais quelques secondes, monsieur le ministre, parce que je vais vous poser une question rapidement.
Vous pouvez. Concernant certaines interrogations, est-ce que les centrafricains mangent à sa faim? Ça, c'est difficile de répondre à cette question. N'est-on pas spécialiste? Mais en fait, manger à sa faim, c'est quoi? C'est manger le matin,
midi
et
le soir.
Généralement, ça c'est théorie classique.
Et des repas coupés. Mais
dire, est-ce que le Centrafricain ne va pas à l'école? La réponse était négative. Moi, je suis bien placé pour dire que le Centrafricain va à l'école. La preuve, c'est que dans toutes nos 8 inspections académiques, nous avons inspections académiques, y compris Bangui et la ville de l'intérieur. Nous avons organisé régulièrement les examens au concours. Et ça se dit pas souvent.
On va en venir sur le domaine éducatif.
Sur ce point,
on est en train d'anticiper sur cette question.
Le membre du gouvernement ne va pas monopoliser la parole, mais
je vous en prie. Est-ce que vous pouvez laisser monsieur le ministre finir rapidement? Vous
avez encore quelques secondes. Oui, c'est un problème de principe. Hein, c'est une question de principe. Quand on dit que le Centrafricain ne va pas à l'école, moi je ne peux pas accepter ça.
Oui, monsieur Béa, rapidement.
Non, je crois que nous sommes dans un débat en tant que patriotes. Le ministre n'est pas devant une cour, il n'est pas là, il n'est pas acculé.
Oui, rapidement.
Mais rapidement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je suis en même temps secrétaire général du KNK, mais député élu de la nation. Ici, à Boali, à côté, il y a encore le phénomène des maîtres parents. Des maîtres parents, c'est une évidence.
30 secondes, je vous en prie.
Voilà, il y a encore le fait que même des enfants qui naissent n'ont pas d'acte de naissance. 59 ans après l'indépendance. Alors, ce sont des problèmes que nous connaissons. Je pense qu'aujourd'hui, gouvernement, société civile, partis politiques, toutes les forces vives se doivent se mobiliser pour que ensemble, je dis bien ensemble, collectivement, nous puissions trouver des solutions pour régler tous ces problèmes qui se posent à notre pays.
Merci beaucoup, monsieur Joseph Bindoumi.
Une seconde. Merci. Une seconde, parce que j'ai entendu le ministre nous dire que ce que j'ai dit n'était pas vrai, mais je prends le ministre à son mot. Le ministre a fait des tournées où il s'est rendu compte, et il a rendu public, il s'est rendu compte que dans certaines écoles qui existent, il n'y avait même pas un instituteur. Je crois qu'il a appelé les instituteurs à rejoindre leur poste. Il n'y avait pas d'instituteur et que c'était des maîtres parents qui géraient les choses sur place. Et quand le ministre me dit que je me suis trompé, je pense que c'est lui qui s'est trompé.
Voilà, rapidement, monsieur Bindoumi. Monsieur le ministre, 59 ans aujourd'hui, le pays n'a que l'unique université de Bangui sur le plan éducatif. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que le pays est indépendant?
J'ai dit, monsieur Bindoumi s'est trompé concernant cet aspect-là, des maîtres communautaires. Vous savez, notre pays a connu les politiques d'ajustement structurel.
Vous avez 1 minute 30.
3, 4 programmes. Passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Et ces programmes-là a lessivé tout le corps enseignant que nous avons. Et ce sont des meilleurs qui sont partis. Ils ont pris le DVA et ils sont partis. Et ceux qui sont restés aujourd'hui, ils sont atteints par la limite d'âge. Donc ils sont en train d'aller à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça qui pose justement le problème de maître communautaire, ce que nous appelons les maîtres parents. Puisque l'école étant sacrée et il n'y a plus des instituteurs, il n'y a plus des enseignants qualifiés, ils sont obligés de prendre ce relais. Mais j'avoue qu'ils défendent plus qu'une forme. Ça, je l'ai toujours dit. C'est un phénomène atypique. Cette histoire de maître parent, on ne peut pas l'accepter. C'est intervenu à un moment où le pays étant en crise, en situation de conflit.
Et surtout 59 ans aujourd'hui, et nous continuons à vivre ce
fait. Non, il y a un programme aujourd'hui qui met l'accent sur la formation de formateurs. Parce que nous disons que la problématique de l'école, c'est la formation des formateurs. Nous pourrons avoir toutes les meilleures infrastructures, toutes les meilleures écoles, mais si nous n'avons pas les hommes pour les animer, si nous n'avons pas des instituteurs, des professeurs pour former nos apprenants, ce serait vain.
Et le même son de cloche à l'université aussi. Hein?
Bien entendu, pour l'université, je suis bien placé aussi pour répondre à cette question, parce qu'il y a un programme qui vise à créer des universités. Les sites sont déjà connus. Et il y a eu des études de faisabilité.
D'ici peu de temps?
Bien entendu.
L'année prochaine ou bien cette année, qu'on a encore 4 mois à faire.
Il y a des impacts, il y a un coût. Hein. Ça ne se fait pas comme ça.
On a fait le tour rapidement pour avancer.
Je finis sur cette question. Quand vous arrivez à l'université de Bangui, le nombre de professeurs titulaires est 50 fois inférieur au nombre de professeurs vacataires. Les années scolaires aujourd'hui n'ont ni tête ni queue. Vous ne savez pas à quel moment on commence, à quel moment ça s'achève. Alors, s'il y a des problèmes dans notre système éducatif, mais parlons-en. Nous sommes 59 ans d'indépendance, nous devons en parler. Je m'arrête là.
À Monsieur Bertin Béard, je disais tantôt que le KNK était aux affaires pendant 10 ans. N'est-ce pas que l'histoire de ce pays est partagée entre ceux qui ont eu à le gérer?
Non, moi je crois que le président de la Ligue des droits de l'homme a dressé un bilan lucide de tous les systèmes ou de tous les régimes qui ont été aux affaires dans ce pays. Et donc, François Bozizé, président fondateur du KNK, aussi a un bilan mitigé. On ne peut pas dire que tout a baigné dans de l'huile du temps de François Bozizé. Il faut assumer. Il faut assumer. Mais globalement, on sait qu'entre la situation où Bozizé était aux affaires et la situation que nous connaissons aujourd'hui, il y a comme le jour et la nuit. On n'a pas connu autant d'insécurité. Le pays n'était pas occupé à 80% comme on le voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de crise alimentaire comme on le voit aujourd'hui. Au moins, l'État était en état de marche. Notamment la question de salaire qui était pratiquement réglée. Le fonctionnaire avait, n'est-ce pas, repris sa respectabilité. Ça a été payé à terme échu. Et le dernier cas, c'était que Bozizé, ayant perdu le pouvoir, étant parti, on a payé le salaire du mois. Et à cette époque-là, l'actuel président était Premier ministre et on a fait un système de bancarisation qui a fait que l'État avait retrouvé, n'est-ce pas, sa respectabilité. Mais je dis que tout n'a pas baigné comme dans de l'huile et il faut assumer cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je suis en face d'un membre du gouvernement, lorsqu'on pose des problèmes réels tels que le système éducatif notamment, qui ne marche pas comme on l'aurait souhaité, il faut reconnaître. Ce n'est pas acculer un membre du gouvernement, non. C'est de dire, que devons-nous faire pour, n'est-ce pas, remédier à cet état de choses? Et je dis encore une fois de plus, puisque c'est notre pays, nous devons nous entendre, nous devons définir un cadre de discussion, n'est-ce pas, d'échange, pour que nous puissions prendre les taureaux par les cornes et dire dans quelle direction devons-nous orienter, notamment pour la question du système éducatif. Le président de la Ligue des droits de l'homme a dit
quelques
ici...
Quelques secondes.
Merci. A dit ici que les 5 vers du Messa ne sont pas conjugués comme Boganda l'aurait souhaité. Nourrir, soigner, éduquer,
vêtir,
que sais-je encore, loger. Voilà autant de programmes qui peuvent, n'est-ce pas, servir de socle à n'importe quel gouvernement qui viendrait à la tête de ce pays.
Merci. Oui, monsieur le ministre, quelques secondes.
Moi, je comprends. Hein.
Oui.
On n'a pas la même vision ni le même intérêt, de toute façon. Quand j'ai affaire à des gens qui ont eu à gérer ce pays à travers des structures politiques et autres. Mais dire que le système éducatif bat de l'aile, je dis non. Le système politique est en train d'être redressé. Je m'explique. Aujourd'hui, l'enveloppe qui est consacrée au système éducatif, je dis bien l'enveloppe financière qui est consacrée au système éducatif est de 13,88.
Le budget alloué.
Oui. À l'époque, il était de 3-4% pour des analyses plus pessimistes. Aujourd'hui, nous sommes à 13,88 et notre objectif, c'est d'atteindre 20%. Concernant le résultat du baccalauréat, nous sommes sur le bon chemin, de mon point de vue. Concernant les admis, du coup, ce qu'on appelle du copiste, là. L'année dernière, quand on a délibéré, le taux, le pourcentage était de 5,65 et quelques. Et aujourd'hui, nous sommes à 7,99. On approche presque pratiquement 9%. Une évolution de 3 points. Si on continue sur ce rythme-là, nous allons produire les meilleurs produits de notre système éducatif. Parce que l'exercice consiste justement du F1, F2, à fournir des produits à l'enseignement supérieur. Et si nous arrivons à le faire progressivement, je crois qu'on aurait résolu ce problème de baisse du niveau et corrélativement, ce problème de népotisme, de corruption aussi, va reculer. Souvenez-vous, à un moment de l'histoire de notre pays, le bac centrafricain était un label. Toutes les universités étrangères voulaient avoir un produit centrafricain, c'est-à-dire un étudiant qui a le bac centrafricain. Mais aujourd'hui, on est tombé bas. Et nous avons mis en place des mécanismes pour redresser justement ces navires-là en termes d'allocation de ressources financières et en termes de formation de maître, ce que nous n'avons pas dit. Et nous sommes aidés en cela par un programme qui est mis en place par la coopération française où nous envoyons régulièrement des enseignants se faire former en Bretagne, c'est-à-dire en France, et revenir aussi former leurs concitoyens.
Merci beaucoup. Dernière question pour tout le monde. Mis à part Barthélemy Boganda, quel homme ou quels sont les hommes politiques qui incarnent le plus dit de l'indépendance, M. Bertin Béard?
Bon, je crois que Barthélemy Boganda, c'est vrai, il avait un leadership charismatique incontesté, incontestable. mais il n'a pas pu gérer le pays. S'il avait peut-être géré le pays, on aurait pu, n'est-ce pas, apprécier ce qu'il a bien fait, il a mal fait.
Il a des écrits, hein, il a mis des écrits.
Oui, il a mis des écrits. Ah, il a des écrits extrêmement importants et je pense qu'il revient aux historiens, aux chercheurs et tout ça, d'approfondir les idées, aux hommes politiques aussi, d'aller à la source de ces idées-là pour s'en imprégner et pour, n'est-ce pas, donner une dimension réaliste, n'est-ce pas, à la marche de notre pays. Il m'est difficile aujourd'hui de dire, de comparer Boganda par rapport aux autres. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que chaque homme politique, chaque homme d'État qui a eu à servir ce pays au plus haut niveau a laissé des traces. David Dacko est arrivé une première fois, M. Benoumi l'a dit ici, avec une politique agricole qu'il a lancée, la laiterie de Sarki, que sais-je encore. On exportait des produits dans les pays de la sous-région, déjà à l'époque. Il y avait des bœufs dressés, grâce à la coopération avec Israël notamment. On a fait la JPN, au temps de David Dacko. Bokassa est arrivé, opération Bokassa. L'université, la télévision, que sais-je encore. L'aéroport de Bangui, les hôpitaux, ce sont les heures de Bokassa. Il y a aussi des côtés négatifs. Dacko est revenu. Il est revenu avec le multipartisme. Ça aussi, c'est une avancée. Il y a eu aussi le séminaire national de réflexion. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est à l'avantage de David Dacko qui a permis, n'est-ce pas, de lancer pour la première fois en Afrique la possibilité aux forces vives du pays, n'est-ce pas, de débattre des questions de leur pays. Il y a eu Kolingba. Il a aussi laissé des réalisations positives et négatives. Il y a eu Patassé. C'est la même chose.
Bozizé.
D'Otodia, que sais-je encore. Alors, je crois que ce que nous devons retenir, c'est surtout les aspects positifs laissés par les uns et les autres. Et jeter au fleuve Oubangui ce qui est négatif.
Merci beaucoup. Monsieur Bindoumi, est-ce que les aspects positifs des hommes politiques centrafricains sont vraiment remarquables?
Oui, absolument remarquables. Vous savez, vous avez posé la question, quel homme aujourd'hui ressemblerait à Boganda? Si vous divisez, vous allez voir quel homme avait l'idée de la souveraineté de l'État. Vous allez voir, tout le monde est unanime pour dire que c'était Bokassa qui avait la souveraineté de l'État. Vous allez demander quel homme politique avait la vocation agricole. Vous allez voir que les hommes politiques qui avaient vraiment la vocation agricole, c'est Bokassa, c'est Patassé, c'est...
Il y a Kolingba aussi, non ?
Kolingba qui a lancé la politique de la fête des moissons.
Oui,
c'est-à-dire cette concurrence qui permettait à ce que chaque préfecture mette tout en œuvre pour mener cette politique. Et je crois que Bozizé a continué avec la fête des moissons. Aujourd'hui, je pense que le président...
Ça a été avorté l'année dernière, hein,
ça a été,
à Bambari,
ça a été avorté à la Waka. Mais ça, c'était notre faute parce que nous sommes allés chercher des histoires à Bambari. On savait que Bambari n'était pas sécurisé.
Oui, mais on est pas sur ça rapidement,
monsieur le ministre. On a bien fait à Berberati, on aurait bien fait à Bosangwa.
Rapidement, on aurait bien fait le temps nous fait
défaut. Donc, le temps nous fait défaut. Donc, je voudrais dire que lorsqu'on voit par rapport à la souveraineté de l'État, en tant qu'autorité publique, on cite après Boganda, on cite Bokassa. Mais quand on voit par rapport à l'évolution économique, agricole du pays, on cite Kolingba, on cite Patassé, on cite Bokassa.
Merci. Donc, merci beaucoup. Oui, rapidement. Parce que...
Rapidement, en termes d'exploitation des ressources, on ne peut pas manquer de citer Bozizé qui a lancé la question du pétrole qui était jusqu'ici une question tabou.
Merci beaucoup, monsieur Béa.
À Boromata, dans la zone qui était, n'est-ce pas, où la rébellion a pris corps.
Oui, monsieur le ministre Moukadas Nour, au nom du gouvernement aujourd'hui, quel homme peut-on citer à titre d'exemple qui prend l'exemple même du président fondateur Barthélemy Bouganda?
Vous savez, le problème de charisme d'un homme politique ou d'un chef d'État ne s'analyse, ne s'apprécie pas à la va-vite parce qu'il faut du temps. Il faut un recul sociologique quand même pour apprécier ces phénomènes-là. Bokassa, on peut en parler, parce qu'on dispose d'un recul quand même pour en parler, pour le juger. Mais les autres...
Mais à 3 ans du président Faustin Archange-Touadéra, on ne peut pas quand même...
Je peux faire le bilan à mi-parcours de ce que le président Faustin Archange-Touadéra a fait. Mais dans le domaine de l'éducation que je maîtrise très bien, parce que je ne vais pas me mettre à vous raconter n'importe quoi. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. J'ai dit que le système éducatif, quoi qu'on dise, est dans la bonne direction. Et je ne vous ai pas parlé des activités phares que le département réalise sur fonds propres. Tout à l'heure, on a dit que notre pays dépend de beaucoup de choses pour faire fonctionner ses institutions, etc. Mais sur le plan de l'éducation, jusqu'au maintenant, j'ai dit que nous fonctionnons sur fonds propres, c'est-à-dire sur le budget de l'État.
Est-ce que la République centrafricaine est indépendante aujourd'hui, selon vous? Rapidement.
On a eu à discuter de ça tout à l'heure.
Oui, M. Bindoumi, est-ce que depuis 59 ans, on est vraiment indépendant sur tous les plans?
J'ai souhaité la bonne fête de l'indépendance au peuple centrafricain en disant que leur indépendance est intervenue le 13 août. Mais je note que des points essentiels qui assument l'indépendance, notamment la capacité de se nourrir, la capacité de s'éduquer, tout ça, nous n'avons pas réussi après 59 ans.
Oui, M. Bertin Beya, qu'en dites-vous rapidement ?
Bonne fête de l'indépendance centrafricaine, mais ce n'est pas un pays indépendant aujourd'hui parce que nous avons dit que sur le plan juridique, il se trouve que notre territoire est contrôlé à 80% par les forces rebelles. L'État ne peut pas exercer son autorité sur l'ensemble du territoire. Il y a une population, c'est vrai, une population qui souffre énormément. Il y a bien d'autres questions comme la sécurité, comme l'accord de Khartoum, accord qui privilégie, n'est-ce pas, un arrangement entre gouvernement et groupe rebelle. Le gouvernement, certes, a réalisé une part de ses obligations, mais que dit le ministre ici,
merci
membre
beaucoup
du gouvernement, de la part que les rebelles auraient dû réaliser. Aujourd'hui, les barrières sont toujours là. Aujourd'hui, Ali Daras continue à tuer. Aujourd'hui, Sidi qui continue à sévir. Alors, ce sont autant de problèmes qui montrent très bien que l'indépendance n'est que virtuelle.
Merci beaucoup. Fin du débat Patara de ce jour. Je le rappelle, nous avons abordé la question de l'indépendance de la République centrafricaine sur les plans sécuritaires, éducatifs, économiques et sociaux. Nous avions reçu autour du plateau le secrétaire général du parti KNK, M. Bertin Beya. Monsieur, merci d'avoir honoré de votre présence à ce débat.
Merci.
Monsieur Aboubakar Moukadou Kadas Nour, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, représentant du gouvernement. Monsieur, merci infiniment.
Je vous remercie.
Et Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Monsieur, merci.
Je remercie particulièrement le ministre Nour qui est venu, qui a accepté de participer à ce débat parce que beaucoup de membres du gouvernement fuient le débat. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je le félicite.
Ils n'ont pas d'argument, justement.
Bon, donc, je vous félicite aussi, Ndakeluka, pour toutes les démarches que vous faites pour que la République centrafricaine soit suivie.
Merci infiniment à vous, monsieur le ministre.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, Armand Nguindi au micro et la technique, c'était le service de Guy Rémy. Amenindi, portez-vous bien et à la prochaine pour un autre débat.